c'est qu'elle venait de congédier le père Oudry. Ah, pauvre biche! Et dans l'excès de son émotion, Arnu voulait courir chez elle. Ce n'est pas la peine, j'en viens, elle est malade. Raison de plus! Il repassa vivement sa redingote et avait pris son bougeoir. Frédéric se maudit pour sa sottise et lui représenta qu'il devait, par décence, rester ce soir auprès de sa femme. Il ne pouvait l'abandonner, ce serait très mal. Franchement, vous auriez tort. Rien ne presse là-bas. Vous irez demain. Voyons, faites cela pour moi. Arnoux déposa son bougeoir et lui dit, en l'embrassant, « Vous êtes bon, vous. » Chapitre 3e. Alors commença pour Frédéric une existence misérable. Il fut le parasite de la maison. Si quelqu'un était indisposé, il venait trois fois par jour savoir de ses nouvelles, allait chez l'accordeur de piano, inventait mille prévenances, et il endurait d'un air content les bouderies de Mademoiselle Marthe et les caresses du jeune Eugène, qui lui passait toujours ses mains sales sur la figure. Il assistait au dîner où monsieur et madame, en face l'un de l'autre, n'échangeaient pas un mot, ou bien Arnoux agaçait sa femme par des remarques saugrenues. Le repas terminé, il jouait dans la chambre avec son fils, se cachait derrière les meubles, ou le portait sur son dos en marchant à quatre pattes comme le Béarnais. Il s'en allait enfin, et elle abordait immédiatement l'éternel sujet de plainte, Arnoux. Ce n'était pas son inconduite qui l'indignait, mais elle paraissait souffrir dans son orgueil, et laissait voir sa répugnance pour cet homme sans délicatesse, sans dignité, sans honneur. « Ou plutôt, il est fou, » disait-elle. Frédéric sollicitait adroitement ses confidences. Bientôt, il connut toute sa vie. Ses parents étaient de petits bourgeois de Chartres. Un jour, Arnoux, dessinant au bord de la rivière, il se croyait peintre dans ce temps-là, l'avait aperçue comme elle sortait de l'église et demandait en mariage. À cause de sa fortune, on n'avait pas hésité. D'ailleurs, il l'aimait éperdument. Elle ajouta, « Mon Dieu, il m'aime encore, à sa manière. » Ils avaient, dès les premiers mois, voyagé en Italie. Arnoux, malgré son enthousiasme devant les paysages et les chefs-d'œuvre, n'avait fait que gémir sur le vin et organisait des pique-niques avec des Anglais pour se distraire. Quelques tableaux bien revendus l'avaient poussé au commerce des arts. Puis, il s'était engoué d'une manufacture de faïence. D'autres spéculations à présent le tentaient, et se vulgarisant de plus en plus, il prenait des habitudes grossières et dispendieuses. Elle avait moins à lui reprocher ses vices que toutes ses actions. Aucun changement ne pouvait survenir, et son malheur à elle était irréparable. Frédéric affirmait que son existence, de même, se trouvait manquée. Il était bien jeune, cependant. Pourquoi désespérer? Et elle lui donnait de bons conseils. Travaillez, mariez-vous. Il répondait par des sourires amers, car au lieu d'exprimer le véritable motif de son chagrin, il en feignit un autre, sublime, faisant un peu l'Antonie, le maudit. Langage du reste qui ne dénaturait pas complètement sa pensée. L'action, pour certains hommes, est d'autant plus impraticable que le désir est plus fort. La méfiance d'eux-mêmes les embarrasse, la crainte de déplaire les épouvante. D'ailleurs, les affections profondes ressemblent aux honnêtes femmes. Elles ont peur d'être découvertes et passent dans la vie les yeux baissés. Bien qu'il connût Madame Arnoux davantage, à cause de cela peut-être, il était encore plus lâche qu'autrefois. Chaque matin, il se jurait d'être hardi. Une invincible pudeur l'en empêchait, et il ne pouvait se guider d'après aucun exemple puisque celle-là différait des autres. Par la force de ses rêves, il l'avait posée en dehors des conditions humaines. Il le sentait, à côté d'elle, moins important sur la terre que les brindilles de soie s'échappant de ses ciseaux. Puis, il pensait à des choses monstrueuses, absurdes, telles que des surprises la nuit, avec des narcotiques et des fausses clés, tout lui paraissant plus facile que d'affronter son dédain. D'ailleurs, les enfants, les deux bonnes, la disposition des pièces, faisaient d'insurmontables obstacles. Donc, il résolut de la posséder à lui seul et d'aller vivre ensemble bien loin, au fond d'une solitude. Il cherchait même sur quel lac assez bleu, au bord de quelle plage assez douce, si ce sera l'Espagne, la Suisse ou l'Orient. Et choisissant exprès les jours où elle semblait plus irritée, il lui disait qu'il faudrait sortir de là, imaginait un moyen, et qu'il n'en voyait pas d'autre qu'une séparation. Mais pour l'amour de ses enfants, jamais elle n'en viendrait à une telle extrémité, tant de vertu augmenta son respect. Ses après-midi se passaient à se rappeler la visite de la veille, à désirer celle du soir. Quand ils ne dînaient pas chez eux vers 9 heures, ils se postaient au coin de la rue et dès qu'Arnoux avait tiré la grande porte. Frédéric montait vivement les 2 étages et demandait à la bonne, d'un air ingénu, « Monsieur est là ?» Puis, faisait l'homme surpris de ne pas le trouver. Arnoux, souvent, rentrait à l'improviste. Alors, il fallait le suivre dans un petit café de la rue Sainte-Anne que fréquentait maintenant Rochimbard. Le citoyen commençait par articuler contre la couronne quelques nouveaux griefs. Puis il causait, en se disant amicalement des injures, car le fabricant tenait Rochimbard pour un penseur de haute volée, et chagriné de voir tant de moyens perdus, il le taquinait sur sa paresse. Le citoyen jugeait Arnoux plein de cœur et d'imagination, mais décidément trop immoral. Aussi le traitait-il sans la moindre indulgence et refusait même de dîner chez lui parce que la cérémonie l'embêtait. Quelquefois, au moment des adieux, Arnoux était pris de fringales. Il avait besoin de manger une omelette ou des pommes cuites, et les comestibles ne se trouvant jamais dans l'établissement, il les envoyait chercher. On attendait. Rochimbard ne s'en allait pas et finissait, en grommelant, par accepter quelque chose. Il était sobre néanmoins, car il restait pendant des heures en face du même verre à moitié plein. La Providence ne gouvernant point les choses selon ses idées, il tournait à l'hypochondriaque, ne voulait même plus lire les journaux et poussait des rugissements au seul nom de l'Angleterre. Il s'écria une fois, à propos d'un garçon qui le servait mal, « Est-ce que nous n'avons pas assez des affronts de l'étranger ?» En dehors de ces crises, il se tenait taciturne, méditant un coup infaillible pour faire péter toute la boutique. Tandis qu'il était perdu dans ses réflexions, Arnoux, d'une voix monotone et avec un regard un peu ivre, contait d'incroyables anecdotes où il avait toujours brillé grâce à son aplomb. Et Frédéric, cela tenait sans doute à des ressemblances profondes, éprouvait un certain entraînement pour sa personne. Il se reprochait cette faiblesse, trouvant qu'il aurait dû le haïr au contraire. Arnoux se lamentait devant lui sur l'humeur de sa femme, son entêtement, ses préventions injustes. Elle n'était pas comme cela autrefois. « À votre place, disait Frédéric, je lui ferai une pension et je vivrai seul. » Arnoux ne répondait rien, et un moment après entamait son éloge. Et elle était bonne, dévouée, intelligente, vertueuse. Et passant à ses qualités corporelles, il prodiguait les révélations avec l'étourderie de ces gens qui étalent leurs trésors dans les auberges. Une catastrophe dérangea son équilibre. Il était entré, comme membre du conseil de surveillance, dans une compagnie de kaolins. Mais, se fiant à tout ce qu'on lui disait, il avait signé des rapports inexacts et approuvé, sans vérification, les inventaires